Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Kipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour.
Bonsoir.
Bienvenue.
Dans Cour d'honneur.
Saison 4, épisode 12.
Ici, deux voix féminines.
Dans vos deux oreilles.
Ici Chérine.
Ici Swan. Épisode 12, le 12 mars, Chérine, c'est magnifique.
Et oui, Swan, en plein mois des droits des femmes, qui plus est. Les étoiles s'alignent, mais on n'est pas ici pour parler d'heures miroirs ou de numéros astro.
Et oui, on a une question à laquelle répondre, un rôle à jouer, une émission à accomplir.
Dis-moi, Swan, c'est quoi être étudiant à la Sorbonne ?
Mais justement, Chérine, on y répond sur Cour d'honneur. Un mercredi sur deux sur Radio Sorbonne Université.
Un samedi sur deux sur Radio Campus Paris.
Nous sommes le magazine d'infos et de culture avec toujours une pointe d'humour.
Qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus.
Depuis plus de 10 ans. Pendant une heure, nous vous promettons de parler...
d'agriculture.
Le mouvement s'amplifie.
Et je vous garantis que d'ici ce soir, on tombera à l'église de la préfecture.
400 à 500 tracteurs mobilisés du côté de Strasbourg.
De Trump et de son Amérique.
America safe again. And yes, together, we will make America great again.
On veut aussi parler de ce que Trump devrait davantage consommer, de la littérature.
Cette même personne m'a dit que j'étais un illettré, qui veut dire homme de lettres, en italien.
Voici nos promesses.
Avec la meilleure des équipes pour vous servir.
Bonsoir Ellie.
Bonsoir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être là pour une seconde fois et c'est parti.
Qu'est-ce que tu nous présentes ?
Alors moi aujourd'hui je vous présente un petit édito sur Trump et la transidentité.
Et ça.
On a très hâte d'écouter ça vu l'actualité. On a aussi Lavinia ce soir. Bonsoir.
Bonsoir les filles. Alors toujours dans le même fil d'actualité, on va retrouver nos chers camarades dans la Sorbonne Mer pour leur poser la question, faut-il tourner le dos aux États-Unis ?
C'est très américain ce soir.
Eh oui, dis donc.
Vas-y. Attends deux. Non.
Oh là là, problème bon. De micro.
Et Marion qui n'est pas là, hein, qui devait présenter la chronique débrouille, mais on lui passe le bonjour et on espère qu'elle arrive bientôt.
Et il y a aussi Alice ce soir. Bonsoir Alice.
Coucou les filles. Ah, c'est bon, oui. Alors moi je vais vous emmener en Grèce, enfin pas en Grèce, mais je vais vous parler avec le Sorbonne en personne d'une star de cette académie qui nous vient de Grèce. Son prénom commence par N et finit par Icosial.
N'en dis pas trop, voilà. Tu spoil là.
Je garde le suspense.
Et toi, Clara, qu'est-ce que tu nous présentes ce soir ?
Alors moi, je suis sûre que vous êtes toujours demandé pourquoi ça s'appelle la Sorbonne.
Oui, c'est vrai.
Et donc, on va découvrir ça ce soir avec la chronique pavée.
Suspense.
J'ai très hâte. Je pense que tu vas beaucoup nous aider, vraiment. Et on a aussi Elias, le fameux ce soir. Hello.
Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, moi, je vous emmène ni aux États-Unis ni en Grèce, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais à Jussieu. Je vous fais découvrir le Fab Lab de Jussieu, un très bel endroit.
Ok. On a hâte d'écouter ça. Voilà. Sans oublier Thomas Shelby, Tom Tom et Nana. Et non, c'est encore le fameux, le célèbre, l'unique Thomas Schnell derrière les platines.
En plus, l'auteur de Tom Tom et Nana, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Ça, ça m'a fait beaucoup de chagrin.
C'est vrai que... Ouais.
Paix à son âme.
Et je suis ravie de vous retrouver.
Eh oui.
C'est cassé l'ambiance.
Sur ce, faites comme chez vous, chers auditeurs. Installez-vous et prenez place du haut de l'amphi.
Dans votre chambre de bonne ou aux toilettes sur le palier.
Bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito sur Radio Sorbonne.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, je suis vraiment fichée.
Carte blanche. Aujourd'hui, dans l'édito, on parle de transidité parce que l'actualité fait froid dans le dos. Si le cas américain a de quoi faire frémir, la situation en France n'est pas plus enviable. Entre débats enflammés et inertie politique, les jeunes trans doivent encore se battre pour exister. Il y revient sur une lutte où l'absurde côtoie le tragique.
Ah,
Donald Trump, ce génie capillaire, tweetos compulsif, mais surtout beaucoup trop orange. Non mais sérieux, même moi je savais mieux choisir ma teinte d'anti-cerne quand j'ai commencé à me maquiller. Bref, il a su donner des sueurs froides à la communauté LGBTQ+, en un temps record. Pendant son mandat, qui a commencé il y a à peine 2 mois, hein, je précise, la transidentité est, disons, légèrement malmenée. Et c'est un faible mot. Entre l'interdiction des personnes transgenres dans l'armée, parce que visiblement défendre son pays en étant trans, c'était trop conceptuel pour lui, et les multiples tentatives de suppression de protections légales, on peut dire que Trump a réussi à faire du genre un champ de bataille. Est-ce qu'on peut dire qu'il veut « make gender great again » ? Oui, mais avec une définition bien précise et surtout bien figée quelque part dans les années 1950. L'administration Trump a souvent semblé penser que la transidentité relevait davantage d'un caprice que d'une réalité apparemment. Un peu comme si on décidait que la gravité, c'était une question d'opinion. Le résultat, ben, c'est une explosion de discrimination, une invisibilisation grandissante et des jeunes trans livrés à eux-mêmes dans un pays où leur existence devenait au mieux un débat public, au pire un non-sujet. Mais revenons en France, car nous vivons quand même dans ce beau pays des Lumières, du débat rationnel et des polémiques farfelues sur le genre. Ici aussi, les jeunes trans sont confrontés à un climat parfois délétère, où leur simple existence semble réveiller les pires angoisses de certains intellectuels, enfin intellectuels c'est un bien grand mot pour certains, sur les plateaux télé. Entre les débats sur les bloqueurs de puberté, les discours alarmistes sur une prétendue « contagion trans » avec de gros guillemets, et la frilosité des institutions, il ne fait pas toujours bon d'être un étudiant trans en hexagone. Parlons par exemple de notre chère ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, qui supprime la notion de transidentité des programmes officiels. Bah oui, hein, au final, la transphobie, c'est pas si grave en vrai. Bien sûr, tout n'est pas noir. Les associations de soutien se multiplient, heureusement j'ai envie de dire. Certains professionnels de santé s'engagent et les mentalités évoluent doucement. Un peu trop doucement, diront certains. Mais soyons honnêtes, entre Trump qui voudrait carrément faire disparaître la transidentité des radars et une France qui fait semblant de ne pas la voir pour ne pas trop bousculer son confort binaire, on est face à deux styles de rejet différents. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Que les personnes trans ont encore un long chemin à parcourir, ça c'est sûr, pour être pleinement reconnues et protégées. Que ce soit sous les fonds de teint trop orangés des États-Unis ou sous les lumières tamisées des plateaux de CNews, mais aussi que malgré tout, elles continuent de lutter et d'exister et de prouver chaque jour que l'identité ne se dicte pas par décret présidentiel ou par éditorial réactionnaire. Et ça, c'est peut-être la plus belle des victoires. Et comme l'a dit Hunter Schafer sur TikTok, invisibiliser et discriminer les personnes trans ne vous empêchera pas d'exister et d'être qui nous sommes. Et je tiens à rappeler tout de même que la transphobie et l'homophobie est un délit et non une opinion.
Merci Lily pour ces sages paroles. Vous êtes toujours sur Radio Sorbonne.
Il est 18h14 sur Radio Campus Paris.
Vous le savez, hein, dans la vie, il y a des hauts.
Mais il y a des bas aussi.
Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Ces dernières semaines, des décisions majeures de la part de Trump ont secoué la scène internationale, notamment le gel de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, annoncé mardi dernier. Face à cela, quel terrain d'entente peut-on encore chercher avec les États-Unis ? Serait-il temps de leur tourner le dos ? Lavinia est allée poser la question aux étudiants de la Sorbonne.
Alors, je pense que ce serait une erreur de tourner le dos aux États-Unis, déjà par leur poids qui est considérable dans l'économie. Il faut être un peu moins naïf par rapport à la façon de traiter avec eux, selon moi, parce que la claque que s'est prise Zelensky, on l'a prise par ricochet aussi, et il faut seulement se réveiller comme le font aujourd'hui les dirigeants européens. Donc tourner le dos, ce serait une grave erreur selon moi, parce qu'on va seulement se prendre des droits de douane et c'est tout. Mais par contre, avoir une posture moins naïve, moins attentiste, selon moi, moins bête. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est arrêter de vouloir faire le gentil en allant à Washington et peut-être essayer d'imposer une voix européenne face à eux.
Par rapport à ce qui se passe en Ukraine et avec la Russie, il faudrait, oui, faire barrage à la politique militaire menée par Trump. Si tous les pays s'allient tous ensemble, les États-Unis et la Russie devront finir par s'incliner. Après, jusqu'à quand, on ne sait pas. Et par rapport à ce qui se passe au sein des États-Unis même, il y a quand même le droit international qui n'est pas trop respecté. Au bout d'un moment, il va bien falloir le faire respecter.
Non, je pense que ce serait une erreur de tourner le dos aux États-Unis parce que déjà, ils s'en chargent assez bien tout seuls de nous tourner le dos. Et il faudrait leur montrer que l'Europe a encore des choses intéressantes pour les États-Unis, à la fois en termes de débouchés et en termes d'intérêts scientifique et culturel. En ce qui concerne la situation actuelle, il faut aussi comprendre que les États-Unis ont toujours eu une certaine tendance à se détourner de leurs alliés depuis plus d'un siècle, et donc il n'y a pas forcément de raison d'être surpris par ce que fait Trump, et ça aurait pu arriver de la même manière avec Kamala Harris, c'est arrivé de la même manière avec Obama quand il a refusé d'accompagner la France dans les bombardements en Syrie pour défendre le peuple syrien. Ça fait partie des fluctuations dans une alliance, et donc il y a une certaine logique dans le fait qu'une relation avec un allié ce soit pas forcément toujours linéaire et que ça se passe pas toujours très bien, et donc tourner le dos aux États-Unis, je pense que ce serait une erreur.
L'Europe, c'est très important pour avoir un rôle de paix, pas guerre, pas réarmer l'Europe. La question avec les États-Unis, c'est quelque chose qui va agrandir la peur de l'Europe qui se réarme, parce que c'est pas une future de paix. Il y a une participation diplomatique pour médier pour la paix, pas de prendre les armes ou réarmer l'Europe.
Je sais pas s'il faudrait leur tourner le dos. En tout cas, il faut tourner le dos à cette administration-là, parce que les États-Unis restent une grande démocratie, et j'ose espérer que dans 4 ans, un autre républicain de la trempe de Trump ne sera pas élu. Mais je pense que effectivement, il faut une Europe plus souveraine vis-à-vis des États-Unis. Je pense que les actions actuelles des dirigeants européens vont dans le bon sens.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ?
Déjà, j'ai l'impression que toutes les semaines, on parle de la guerre en ce moment. C'est un gros sujet.
Wouhou, good news.
Non, mais c'est important d'en parler, c'est sûr. Après, ce que tu avais dit au début, que Trump avait coupé toutes les aides avec l'Ukraine, il me semble en tout cas que ce matin ou hier, ça a repris immédiatement.
Oui.
Donc voilà, c'est toujours bon d'être précisé. Après, moi, c'est toujours comme d'habitude. En fait, moi, je comprends pas forcément tout ce qui se passe. Je trouve que c'est pas extrêmement logique non plus les décisions qui sont prises. Après, peut-être que c'est parce que je suis pas du tout dans le milieu. Et du coup, j'arrive pas à saisir certains concepts.
Non, c'est pas de la logique.
C'est dans la tête de Trump, hein, surtout.
Et oui, je pense que c'est surtout ça. Et puis, je sais. Ouais, je suis
sans mots.
Très perdu dans ce sujet.
J'ai pas été d'accord avec, je crois, le troisième gars qui a parlé, où il disait oui, il faut qu'on montre aux États-Unis que non. Ah non, s'il vous plaît, ne tournez pas le dos, on a encore plein de chouettes avantages. Je pense que la question, comme tu l'as entendu, c'est comme les États-Unis font de la merde, est-ce que là on leur tourne le dos ? C'est pas une question de. Comme ils nous tournent le dos, est-ce qu'on leur court après ou pas ? Trump, OK, les États-Unis, c'est une démocratie de façon historique. Là, c'est en train de prendre un chemin antidémocratique qui est assez gênant. Et je pense qu'il ne faut pas couper les États-Unis complètement, mais il faut prendre une énorme distance. Il faut, je ne sais pas, leur mettre un peu un gros stop en mode OK, on est vos alliés, mais ça ne vous laisse pas le droit de tout faire. Parce que sinon, on va se faire marcher sur les pieds au bout d'un moment. C'est comme s'il y a les accords entre l'URSS, pas l'URSS, parce que c'est plus... la Russie et...
Chine.
Non. L'Ukraine, voilà. Si on leur dit, ah non, mais OK, on fait des accords. Mais en fait, ils vont toujours pousser le bouchon plus loin, plus loin, plus loin. Et pour moi, les États-Unis, c'est un peu la même chose. Genre, juste ce matin, Trump, il a posté une photo de l'insigne des homosexuels qui portaient en camp de concentration barré. Il a supprimé, je crois, plusieurs centaines de mots.
Les secteurs scientifiques.
Ouais.
De la recherche, oui.
Et puis même pas la Constitution, mais voilà, exactement. C'est hyper antidémocratique ce qui est en train de se passer. Et si Macron, il continue à faire « Ah, les États-Unis, Trump, ah, t'es trop mon ami, je te salue. » Ça, on envoie un super mauvais signal aux États-Unis de allez-y, continuez à faire ce que vous faites, il n'y aura pas de répercussions, il n'y aura personne qui vous stoppera. Quoi.
Par rapport à ce que tu avais dit justement avec le troisième intervenant qui t'avait un peu fait coincer par moment où tu t'es dit c'est pas trop ça en fait l'attitude qu'il faudrait prendre par rapport aux États-Unis. En fait, il avait aussi dit que ça aurait pu arriver avec Kamala Harris et avec n'importe quel autre dirigeant. Est-ce qu'on peut relativiser ça en disant oui, c'est les fluctuations naturelles de l'alliance et on peut rien y faire et voilà. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt vouloir dire que là clairement il y a un problème avec l'administration de Trump et que c'est pas juste ah oui, d'accord, ça arrive, c'est bon. On peut pas parler de trahison. C'est juste, les membres de l'alliance font ce qu'ils veulent et puis c'est bon. On accepte passivement. Non.
Oui, c'est ça. Puis, enfin, j'ai un peu l'impression que c'est les montagnes russes en ce moment, avec par exemple l'échange que Trump a eu avec Zelensky il y a quelques jours. Et hier, il a changé d'avis. Puis après, c'est autre chose. Et c'est, enfin, déjà les échanges sont lunaires. Et puis en plus de ça, enfin, j'ai l'impression que c'est les États-Unis qui contrôlent tout et c'est au bon vouloir de Trump, alors que, enfin, ça peut pas continuer comme ça. Et juste, ça fait que l'Europe et, enfin, personnellement, moi, ça me fait un peu peur. Et je trouve ça pas juste pour nous et en tant que pour notre souveraineté, etc.
Mmh, oui, parce qu'il s'y prend aussi au Groenland, qui est une terre autonome du Danemark, qui veut, enfin, en fait, il veut s'en emparer, quoi. Et du coup, bah oui, il s'en prend à la souveraineté européenne. Il s'en prend aussi à l'OTAN, donc qui est une alliance historique. Est-ce que ce serait pas justement une guerre, je dirais mondiale, mais pas seulement la France contre les États-Unis, plutôt l'Europe, l'Union européenne contre les États-Unis.
Par rapport à ça, il y avait une intervenante vers la fin qui disait que l'Union européenne, c'est une alliance de paix, que c'est une question de diplomatie et que, en fait, se réarmer, ça voudrait dire céder à la peur et s'engager, on va dire, dans quelque chose qui irait contre nos valeurs, contre ce qui nous a fondés en tant qu'Union. Mais est-ce que, justement, si on revient au premier intervenant qui avait dit que, bah oui, en fait, ça serait naïf de croire qu'on peut juste continuer sur la même voie par rapport aux actions des États-Unis, est-ce que, du coup, c'est pas un peu naïf, cette vision-là, de se dire, non, on tient à nos valeurs de paix alors que les autres jouent pas le même jeu que nous? Voilà, moi, je trouve que c'est quand même un peu naïf de continuer sur la même voie.
Bah, c'est naïf aussi de se dire on va pas se réarmer, parce que je suis d'accord que le but, c'est d'abord de trouver une solution diplomatique, mais on peut pas rester aujourd'hui dans un état qui a pas une armée qui est prête en fait à être mobilisée. C'est vrai que c'était le sujet du débat de la dernière fois, et en fait, ça s'inscrit dans une continuité. Et c'est pour ça que c'est vrai que bon, tu parlais de montagnes russes, je suis d'accord que ça fait vraiment penser tous ces allers-retours, toutes ces décisions d'annonce finalement. On va peut-être envoyer des soldats français se battre pour l'Ukraine, puis finalement non, puis oui, puis non. Ouais, ça ressemble aussi. Enfin, il y a tout le côté médiatique qui se met dans cette guerre, et je pense que il faudrait vraiment prévoir un plan de fond. En fait, vraiment construit et arrêté. On rentre dans la logique de Trump, en fait, de dire, de faire des coups comme ça médiatiques. Et il faut qu'on s'assume et qu'on construise quelque chose vraiment de solide au point de vue militaire et économique. Mais sans tourner le dos aux États-Unis, ça c'est impossible.
Tout à fait, Clara. Je suis d'accord avec toi. Bon, qui n'a jamais eu un petit crush sur les policiers et les policières, hein?
En uniforme.
Ok, bon, vous êtes nuls. Sexy Sushi, ce groupe mythique des années 2000, le clame haut et fort, elle, en sex appeal.
Du gros Sexy Sushi sur Cours d'honneur. Ils n'ont pas leur langue dans leur poche, tandis qu'on a des livres de poche dans notre langue. Parlons littérature, parlons culture, mais surtout parlons bis avec Laurence Bobis.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Laurence Bobis, archiviste, paléographe et directrice de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, la BIS, la fameuse. Depuis 2016, on va discuter de son parcours, de la gestion des archives historiques et des défis liés aux évolutions numériques dans le monde des bibliothèques.
Bonsoir Laurence Bobis.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a hâte d'en savoir plus sur l'avenir du livre physique et de l'impact des transformations actuelles sur notre institution culturelle. J'ai donc quelques questions pour vous ce soir. J'espère que vous êtes prêtes. Alors, première question. Dans votre parcours, vous avez travaillé dans plusieurs bibliothèques prestigieuses. Est-ce que vous avez notifié des différences majeures entre ces institutions et la bibliothèque de la Sorbonne ?
Oui, évidemment. J'ai commencé ma carrière à la Bibliothèque nationale. Alors, effectivement, c'est une énorme bibliothèque. C'est un monde, mais c'était aussi l'ancienne version de la Bibliothèque nationale. C'était riche, le site Tolbiac n'était pas encore ouvert à l'époque. Et je travaillais en plus au cabinet des médailles, donc le musée de la Bibliothèque nationale. Donc, c'était très particulier, avec très peu de public. Pas beaucoup d'étudiants, donc c'était très différent. Je travaillais aussi à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, donc là aussi c'est une bibliothèque très particulière, qui a des fonds absolument remarquables, mais très peu de public. Enfin. Okay. Et enfin j'ai travaillé à la bibliothèque de l'Observatoire de Paris, donc là le public est distant en fait. On fournit essentiellement des ressources électroniques, c'est les sciences dites dures. Donc les chercheurs ont les ressources électroniques dans leur bureau, ils n'ont pas besoin de fréquenter la bibliothèque qui se recentre essentiellement sur la partie historique en fait, les archives, les instruments aussi, les instruments scientifiques, il y avait un aspect muséal.
Mais alors justement, en tant que directrice, comment est-ce que vous gérez l'évolution des technologies numériques tout en préservant les archives et les documents historiques ?
Alors à la bibliothèque de la Sorbonne, on a traditionnellement pas beaucoup porté d'attention aux archives en fait. Très peu, il y a un très beau fonds ancien qui a été constitué comme beaucoup de bibliothèques par des saisies révolutionnaires. Mais contrairement à d'autres bibliothèques de même niveau, je dirais, le fonds Sorbonne n'a pas été très développé en fait. Très peu de crédits, par exemple, étaient dédiés au développement de ces collections. Or, les fonds patrimoniaux, ça s'entretient, c'est comme les autres fonds. En fait, on n'arrête pas le patrimoine à un moment donné, donc on le poursuit. C'était pas encore. Il y avait un problème budgétaire et il y avait aussi un problème de place. La BIS est en Sorbonne, donc très très à l'étroit. Quand elle a été mise en sécurité entre 2010 et 2013, elle est revenue dans des locaux qui offraient encore moins d'espace pour les collections. Et donc, dans ces conditions, accueillir des archives, par exemple, des archives d'enseignants-chercheurs, c'est compliqué, ou des bibliothèques, évidemment. C'est compliqué parce que ça demande de pousser les murs, en fait.
Mais alors, dans un contexte de plus en plus numérisé, comment est-ce que vous voyez l'avenir du livre physique par rapport aux nouvelles formes de lecture numérique ?
Alors, en sciences humaines, on n'est quand même pas au même stade que dans les sciences dures. Bien évidemment, le support qui a été le plus touché par la révolution numérique, ce sont les périodiques à l'heure actuelle, avec vraiment des changements absolument massifs, non seulement dans le fait que ce soit une offre électronique, mais aussi dans les propositions commerciales. En fait. Donc ce sont des gros éditeurs qui offrent d'énormes bouquets. Donc les formes de négociation ou d'acquisition, tout simplement, ont profondément changé très rapidement, finalement, hein, depuis, en gros, les années 90, et ça a touché un peu plus tardivement les sciences humaines. Donc on essaye de développer, en fait, harmonieusement les deux. Ce qu'on appelle les monographies, les ouvrages, le papier est encore très important en sciences humaines. Et pour les périodiques, on a évidemment une offre numérique qui est énorme. Jusqu'à présent, en tout cas, puisqu'on a des petits problèmes budgétaires, ce qui font que, malheureusement, ça risque de, voilà, de, cette offre risque de diminuer.
Malheureusement. Mmh. Et selon vous, quel rôle jouent les bibliothèques universitaires dans la transmission du savoir et de la culture de demain ?
Alors, il y a une série d'études et d'enquêtes qui tendent à démontrer que les bibliothèques sont essentielles dans la réussite étudiante. Les étudiants qui fréquentent les bibliothèques, donc je vous invite, j'espère que vous êtes tous lecteurs de la BIS. Bon. C'est vraiment extrêmement important. Et la bibliothèque, je dirais, elle est partout, en fait. C'est une place de travail, c'est des livres qu'on vient emprunter, mais c'est aussi des ressources qu'on trouve chez soi.
Récemment, une mobilisation des salariés de la BIS a eu lieu en raison d'un problème de versement de salaire. Comment est-ce que, comment avez-vous, en tant que directrice, comment est-ce que vous avez pu, comment est-ce que vous gérez cette situation et quelles mesures ont été prises pour y remédier? Est-ce que vous savez même, est-ce que même c'est vous qui gérez tout ça?
Alors, je ne gère pas en fait des êtres humains. En fait, il y a il y a des mentors qui sont considérés comme des personnels à part entière pendant le temps où ils travaillent chez nous. Et évidemment, on est très sensible à leur situation. Dès que on sait très bien qu'ils sont étudiants, qu'ils peuvent être en difficulté. Ils n'ont pas forcément de famille derrière eux pour pouvoir les aider à payer leur loyer, etc. Et c'est vraiment une situation qui est humainement très très difficile à supporter. Donc, dans les faits, il y a un problème aussi un peu intrinsèque qui est que les contrats étudiants sont différents en fait des contrats habituels et que les mentors sont payés sur ce qu'on appelle service fait. C'est-à-dire il faut qu'ils aient fait des heures, qu'on les déclare et ensuite ils sont payés. Ce qui est très différent d'un contrat habituel où vous avez 35 heures ou un mi-temps à faire. Donc ça constitue une difficulté parce que dès qu'un mentor commence à travailler, il a au moins 2 mois de décalage avant sa première paye. Et voilà, donc là, il y a eu cette première difficulté auxquelles se sont ajoutées d'autres difficultés de mise en paye au niveau des services administratifs.
Vous avez co-dirigé un ouvrage sur l'histoire de la bibliothèque. Quelle partie de son histoire vous semble la plus captivante et pourquoi ?
Ça c'est une question difficile. Hein.
Un petit peu, oui.
Il faut choisir, ça, c'est vraiment un choix. Alors, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est l'attention qu'on a prêtée à des figures de bibliothécaires femmes qu'on a mis en valeur et qui ont eu un rôle considérable. Je pense donc notamment à Madame Spire qui a eu a été bibliothécaire à la BIS et qui a dû s'exiler aux États-Unis pendant la guerre à cause des mesures anti-juives et ensuite s'est inspirée des bibliothèques américaines pour introduire de la modernité et qui sait particulièrement intéressée aux bibliothèques étudiantes. En fait, il y avait des groupes étudiants qui constituaient des bibliothèques à part entière. Et à l'époque, c'était la BIS qui donnait des crédits pour constituer ces bibliothèques. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un aspect très intéressant, pas très connu, et voilà, qui méritait d'être valorisé.
Et justement, en lien avec ça, au niveau de l'histoire de la BIS, la bibliothèque de la Sorbonne fait donc ses 250 ans à peu près d'histoire. Quelles transformations majeures ont marqué son évolution au cours des dernières décennies ?
Alors, la transformation la plus importante, ça a été quand même la mise en sécurité entre 2010 et 2013. La bibliothèque a connu 2 déménagements. Elle est partie quelques années à Sainte-Barbe et puis elle est revenue. C'est quand même assez rare dans le milieu des bibliothèques de voir une grosse bibliothèque comme ça qui déménage, continue à travailler tout le temps. L'autre aspect aussi très transformateur, ça a été effectivement l'arrivée massive de l'offre numérique pour les périodiques et de ce qu'on appelle alors plus récemment tout ce qui est les humanités numériques. Donc en 2017, on a monté une bibliothèque numérique qui permet justement de mettre en valeur le patrimoine de la bibliothèque. Et puis, depuis 2018, la bibliothèque s'est investie dans beaucoup de projets d'humanité numérique, des projets très variés dans les disciplines qui sont les nôtres, en histoire, en sciences de l'Antiquité notamment.
Et alors, une question qui me vient tout droit de Thomas. Quel est le plus grand trésor que renferme la BIS ?
Oui, c'est la charte de l'université, évidemment.
Évidemment. Vraiment ?
Oui, mais on vous le montrera si vous voulez.
Oh !
Oui.
Ah, disons.
C'est...
Oui.
Ah bah c'est
pourquoi,
une charte.
Pourquoi c'est un trésor ?
Oui, en quoi c'est un trésor ?
C'est un document qui marque la naissance de l'université.
D'accord.
Donc médiévale, c'est quand même pas rien.
C'est l'original.
Oui.
D'accord. Oui. En effet.
Waouh. Oh là là. chaque département de la Sorbonne possède donc sa propre bibliothèque, comme si c'était sa propre chapelle. Est-ce que la BIS a pour vocation de devenir la basilique Saint-Pierre des bibliothèques de la Sorbonne, la reine des mers un peu des bibliothèques ?
Alors, la bibliothèque de la Sorbonne, elle est interuniversitaire, en fait. C'est ça, sa particularité. En fait, ce qui la caractérise, c'est d'être le témoin encore vivant de l'Université de Paris avant, en fait, l'éclatement des universités. Moi, j'ai la faiblesse de penser que parfois, il y a des dinosaures qui deviennent plus modernes, en fait, parce qu'il suffit simplement de laisser passer du temps. Et puis, finalement, on peut retrouver dans ces statuts très particuliers des avantages. Donc, on a une mission nationale, hein, de facto, on accueille... Donc, on est un peu hors territoire, en fait. Et je trouve que c'est une force. Et puis, par ailleurs, on s'appuie sur des collections très anciennes, et importante. Donc il y a une profondeur en fait de collection qui est particulière.
Alors justement, quel est ce processus de conservation des documents anciens à la bibliothèque de la Sorbonne et comment le public peut-il y accéder ?
Alors les documents sont communiqués dans une salle particulière qui est la salle de réserve. Il y a un public qui vient tout à fait régulièrement. En général, c'est sur demande spécifique, mais enfin, c'est quand même relativement ouvert. Il n'y a pas de contrôle majeur. Enfin, évidemment, il y a une surveillance de la communication de ces documents et puis des contraintes. Hein. Vous devez écrire avec un crayon à papier quand vous consultez des documents anciens. Voilà, pour éviter qu'un stylo malheureux ne glisse sur le document. On essaye quand même depuis un an ou deux ans même maintenant d'ouvrir ce patrimoine, parce qu'il est très important que ce ne soit pas justement une chapelle Saint-Pierre, comme vous disiez, et que le patrimoine soit vivant et ouvert. Donc Juliette Gestaz, qui est responsable de la réserve, a mis en place des ateliers, par exemple, avec des enseignants-chercheurs. Et en fait, il y a des documents qui sont sortis en appui des cours. Parce que c'est quand même important, quand vous faites un cours d'histoire, que vous puissiez, le cas échéant, voir... Et pouvoir, le cas échéant, toucher des documents qui ont un rapport avec ce cours. Je sais pas, des livres du 17e, par exemple, ou des livres sur une thématique. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de développer. Et on est toujours très heureux des réactions des étudiants, qui sont quand même toujours dans l'émerveillement, en fait, de voir ces documents.
Ouais. Alors j'ai notre dernière question que je suis très, très fière de pouvoir vous poser. Que représente la Sorbonne pour vous ?
Alors, c'est un lieu magique. C'est un lieu magique, c'est un lieu labyrinthique, c'est un lieu complexe. C'est un lieu qui renferme des trésors en tout genre, des trésors de livres, mais aussi des trésors humains. En fait, il y a des... Voilà, je fais un petit coucou à mes équipes. voilà, une bibliothèque, c'est des gens, en fait, qui travaillent dans toutes sortes de domaines, qui conservent les livres, qui les étiquettent, qui les cataloguent, qui les mettent à disposition des publics, qui renseignent les étudiants. Voilà, donc c'est une sorte de... Voilà, c'est une grande équipe qui travaille ensemble. Et voilà. Et puis on a une charge aussi, on est dans la transmission, en fait. On prend le relais d'autres équipes qui, dans le temps, ont constitué la bibliothèque. Et ça, je trouve que c'est toujours très riche de se dire que voilà, on ne fait que prendre la suite, mais qu'on essaye de faire de son mieux pour que voilà, rendre la bibliothèque au moins aussi bien qu'on l'a trouvée.
C'est sur ces belles paroles. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai été honorée de pouvoir vous interviewer ce soir.
Merci. Merci à vous.
Bah, pour plaisir. Je tiens à rappeler que vous êtes l'autrice en co-direction avec Boris Noguès de La Bibliothèque de la Sorbonne, 250 ans d'histoire au cœur de l'université, qui est un ouvrage essentiel pour la mémoire de notre patrimoine universitaire. Merci beaucoup. Pardon. Et... Sur ce, quand on pense aux bibliothèques, on pense aux œuvres classiques de notre belle littérature française. Et à Cour d'honneur, quand on pense à nos œuvres classiques, on pense aux iconiques. Celle qui a marqué cette dernière décennie et a marqué ce début d'année avec son nouvel album, dont on est Gaga. On en écoute un son tout de suite, Vanish Into You, de Lady Gaga.
Montoyou sur Cours d'honneur, le cinquième titre du récent album My Ham de Lady Gaga. Tous les sons du disque sont dingues, c'était dur de choisir et de résister. Comme pour la Pardon, c'est quoi être étudiant à la Sorbonne?
C'est la question à laquelle on répond à Cours d'honneur.
Vous êtes toujours sur Radio Sorbonne, la radio étudiante qui fait le tour de la fac et de ses campus.
Il est 18h45 sur Radio Campus Paris.
Vous le savez, on adore vagabonder dans la rue de Paris et cette fois, on s'est arrêté à Porte de Versailles pour faire un petit coucou aux saveurs et aux agriculteurs de nos régions. Tout de suite, place au reportage sur Cours d'honneur.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau et là, c'est le drame.
En février, le Salon de l'agriculture ouvrait ses portes à Paris. Parmi les tomes de Savoie, le vin du Beaujolais et les vaches venues de Normandie, Chirine est allée à la rencontre de la jeunesse agricole.
Dites-moi, vous avez pressé le fromage ? Eh bien, remontrez-nous parce que nous, on n'a pas vu. Allez, vas-y, presse. Et on l'applaudit. Bravo, Pépette. Une fromagère en herbe.
Aujourd'hui, 22 février, s'ouvre le Salon de l'agriculture. Pendant une semaine, agriculteurs, fromagers, horticulteurs de toute la France se réunissent à Paris pour partager leur savoir-faire. Direction le pavillon 1 dédié à l'élevage, on y croise des moutons, des cochons, des vaches. On y croise aussi la jeunesse paysanne qui nous raconte qu'en 2025, être jeune agriculteur, c'est jongler entre passion et galère.
Je viens de Perpignan et je suis producteur de tomates. C'est une entreprise qui a été créée par mon grand-père. À la fois, c'est une passion parce que on se souvient de quand on est petit et qu'on se balade dans les serres avec le grand frère. La serre, c'est comme une grande forêt, quoi. Moi, ce que je pense là-dessus, c'est qu'on a énormément de concurrence. Là, par exemple, quand je suis rentré dans le salon, en fait, il y a vraiment une porte qui m'a interpellé et il y a marqué... il y a plein de tomates et il y a marqué la tomate du Maroc. Alors tout de suite, nous, évidemment, ça nous fait quelque chose parce que on est en concurrence avec que ce soit le Maroc. Là, actuellement, je travaille dans une serre en Hollande. Et la Hollande, pareil, c'est un pays qui exporte énormément de ses fruits et légumes.
Moi, je suis plus dans les chevaux. Donc, essayer de créer ma petite écurie pour après faire de la valorisation de jeunes chevaux. J'aime les chevaux, j'aime leur faire apprendre les choses. J'aime les faire sortir en concours aussi, c'est ce que j'aime le plus. Aussi, les faire monter en niveau pour après... leur offrir une plus belle vie derrière, c'est aussi ce que j'ai. Alors les chevaux, ils sont un peu hors de l'agriculture, parce qu'on a une autre image des chevaux. On est plus dans le côté les riches, sauf que c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que le monde du cheval est différent, mais c'est beaucoup quand même. On ressent quand même aussi, c'est compliqué quand même.
C'est grâce un peu à nous, grâce aux autres agriculteurs que les Français mangent, et ils devraient valoriser largement plus l'agriculture. Moi, je suis plus dans les bovins laits, tout ce qui est bovin. Mon père, il est céréalier, aucun rapport avec l'élevage, mais oui, c'est un rêve de travailler dans l'agriculture et d'être au salon aussi, c'est un rêve. Je suis venue en tant que visiteur l'année dernière, mais faire les coulisses et nettoyer les vaches, c'est vraiment un rêve. Je compte travailler aussi dans la vie active et après, plus tard, montrer mon projet de faire une ferme pédagogique. D'ailleurs, avec aussi, si je peux, un jour, faire avec des races à faible effectif comme la bretonne pied noir ou d'autres races aussi qui sont en faible effectif.
La question pour vous, combien de temps peut-on conserver au réfrigérateur les steaks rôtis de viande chevaline? Alors, attention, ne te trompe pas. 15 jours dans le frigo tranquille. 15 jours. Oh là là, je crois qu'on ouvre la porte et puis on tombe à la renverse.
Ben, c'est ça.
Nous avons croisé des jeunes, mais aussi des anciens. Gilbert, originaire de Suisse, nous raconte son passé et nous fait part de sa vision sur l'avenir de l'agriculture.
Je viens de Suisse, d'une région qui est la Gruyère, qui est le berceau du fromage qui s'appelle le Gruyère. Et dans mon enfance, mon père était agriculteur et j'ai beaucoup travaillé à ses côtés en produisant du lait qui était spécialement pour la fabrication du gruyère. Que ce soit en France ou que ce soit en Suisse, je pense qu'ils ont un avenir qui est très difficile, très compliqué. Ils doivent malheureusement être très soutenus par ce qu'on appelle nous des subventions, qu'on appelle des paiements directs en Suisse, mais parce que leur produit n'est pas payé à sa juste valeur. C'est ce qui est gênant pour l'agriculture.
Avant de partir, on leur a demandé quelles étaient les expressions typiques à Perpignan et dans les Charentes.
Ah, j'entends mon grand-père qui dit « Aïbundeu », c'est « Ah mon Dieu ».
Bah nous, c'est plutôt « Adi », un truc comme ça, oui, je ne sais pas trop comment dire, mais
Adi, ouais.
Par exemple, pour dire bonjour,
on dit « Adi »,
comme ça, voilà.
Vous le savez, on adore parler des personnages illustres passés par la Sorbonne. Et ce soir, c'est une grande icône du passage du paysage audiovisuel français qui s'invite sur ces bancs.
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
Il est enfin venu le temps du Sorbonne en personne et c'est entre ces murs que se forment les graines des stars actuelles ou passées. Marie Curie, Honoré de Balzac, Jean-Luc Godard. Vous commencez à retenir les grands noms, c'est une véritable star academy cet établissement. Mais je crois qu'aujourd'hui Alice a choisi de vous présenter une personnalité un peu moins conventionnelle mais tout aussi connue, ou presque, et qui, il se trouve, s'y connaît justement très bien en star academy.
Mais attends, Chirine, quelle est cette mélodie qui parvient à nos oreilles ?
Eh bien, cette mélodie, les filles, chargée de Méditerranée, c'est celle qui accompagne le nom de la personnalité du jour. J'appelle à la barre Nikos Aliagas, ou de son vrai nom grec, Nikolaos Aliagas. Notre cher Nikos est né à Paris le 13 mai 1969, mais de parents grecs, Andreas Aliagas, tailleur à Athènes, émigré en France, et Aroula, infirmière à Londres. L'histoire est d'ailleurs romantique, puisqu'ils se sont tous les deux rencontrés sous le ciel de Paris, la ville de l'amour, sur les barricades de mai 68, Aroula étant alors bloquée à la capitale par les grèves, une idylle à la French Spice finalement.
Grenade, grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Attention les jeunes. Eh oui, c'est la révolution.
Le petit Nikos grandit sous la nationalité grecque, tout du moins jusqu'à 18 ans, âge auquel il obtient enfin la nationalité française. On lui apprend le grec ancien et moderne, au cas où sa famille retournerait dans sa patrie. Après le baccalauréat, il fait des études de lettres modernes à la Sorbonne. Pour payer ses études et sa chambre de bonne, il découpe les dépêches la nuit à Radio France Internationale. Après avoir obtenu une maîtrise de lettres modernes, il poursuit sur Radio Notre-Dame, où il est le seul présentateur orthodoxe, c'est en 1992. Ce travail marque le véritable début de sa carrière. Entre 1993 et 1999, Nikos Aliagas est journaliste pour deux chaînes de télévision, TMC pour laquelle il présente la première fois le journal sous le nom de Nicolas Aliagas, et Euronews, chaîne d'information européenne en continu grâce à ses compétences polyglottes. En effet, notre Nikos parle 5 langues, français, grec, espagnol, anglais et italien, le flex. De 1998 à 2001, il est même présentateur pour le journal privé grec Alter Chanel à Athènes.
Ils sont 16 à vouloir devenir star. Un seul vainqueur. Vous allez tout voir. Vous allez décider.
Ah, on arrive enfin à un des tournants iconiques dans le récit des multiples facettes de la carrière de notre Nikos en 2001 sur TF1 pour présenter une émission que vous connaissez tous et que vos parents connaissaient avant vous. Allez, un petit effort, vos présentatrices préf l'ont évoqué tout à l'heure. Bravo, et oui, il s'agit bel et bien de la Star Academy, la deuxième donc après la Sorbonne. Je farce, m'attaquez pas les puristes de l'émission s'il vous plaît. C'est grâce à cet immense succès que Nikos accède à la notoriété. Il épouse d'ailleurs lui aussi la chansonnette deux ou trois fois à l'occasion, avec l'envie d'aimer, en grec par exemple, et il faut croire qu'il se découvre un de ses nombreux kiffs, on y reviendra, car il sort en 2007 son unique album, Rendez-vous, comprenant des duos avec la chanteuse Nolwenn Leroy notamment. La Star Academy connaît une pause dès 2008, mais presque 20 ans après, l'émission fait son grand comeback en 2022 avec son animateur vedette pour cette 10e saison. Franchement, moi je tenais à dire merci, merci à la Star Academy. Tu as offert aux oreilles du monde Nikos, ton plus beau joyau musical, ta plus grande star, Nikos Aliagas, Nikos Starliagas, on pourrait dire même.
L'envie d'aimer de Daniel Lévy, ça donne quoi ça ?
Ce sera nous, c'est ça.
Ah ok, ouais, je la vois. Okay. Voilà.
Suite à l'arrêt temporaire de la Star Academy en 2008, Nikos rejoint Energy en août 2009 pour présenter la matinale de la station jusqu'en 2011. Après quoi, il poursuit à la télévision avec 50 minutes Inside sur TF1, où il interviewe Lady Gaga, Brad Pitt, Angelina Jolie, rien que ça. Ainsi que les Energy Music Awards qu'il présente chaque année depuis janvier 2009. Bon, Nikos, il a animé et participé à d'autres émissions de radio et de télé, mais pour des raisons de temps, vous comprendrez la nécessité de parcourir les plus grandes lignes uniquement. En parlant de grandes lignes, la passion pour la musique de Nikos continue de prendre de la place puisqu'il commence dès 2012 sur TF1 à animer l'autre émission cultissime pour laquelle on le connaît, j'ai nommé The Voice, la plus belle voix, avec Virginie de Clossade, puis Karine Ferry dès la saison 2. Il anime aussi The Voice Kids depuis 2014. Mais notre Nico, c'est un homme polyvalent, ne l'oublions pas. Bon, on récapitule, il y a donc la télé, la radio, le journalisme, le chant. Bon, j'ai fait un énorme paragraphe pour vous parler de tous ses autres talents. Il a fait du doublage pour les dessins animés et des films, par exemple. Il a joué, il a doublé le flamant rose flamenco dans Rio. Il est aussi écrivain à ses heures perdues parce qu'il a écrit au moins 5 livres que vous pouvez retrouver dans les meilleures librairies à côté de chez vous. Il a aussi une passion pour la photo et il a fait des expositions... dans plusieurs pays d'Europe, et je vois vos regards ébahis, vous ne le saviez pas. Il a aussi été acteur, parce qu'il a joué dans des films comme Turf ou encore Tamara 2. Le chanceux. Vraiment une personnalité qui sait nous surprendre, ce Nikos. Le gars a même un timbre à son effigie en Grèce depuis 2013. Ouais, parce que bon, Marie Curie, par exemple, elle était bien sympa, mais à part mélanger 2 ou 3 produits toxiques, elle savait pas faire grand-chose d'autre. Est-ce qu'elle a joué son propre rôle dans Tamara 2, elle, ou fait un album avec Nolwenn Leroy? Bah non, je ne crois pas, non. Il faut remettre les choses à leur place de temps en temps.
Toi, tu te bats mieux que moi, c'est très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne.
Oula non, je voulais pas commencer un clash, my bad, esprit de Marie Curie, et merci pour les travaux, c'est le cas de le dire. Bon, je sais que j'ai affirmé que la liste des talents de Nikos ne s'arrêterait jamais il y a 30 secondes, mais il faut bien que ça s'arrête quand même, ça fait déjà beaucoup dans la vie d'un homme, seul homme. On a déjà fait un chouette petit tour, donc cher auditeur, on s'arrête là. C'est d'ailleurs ce que Thomas me crie à travers la vitre du studio depuis déjà de bonnes minutes. Oui, Thomas, j'ai entendu. Le pauvre, je lui fais le coup à chaque fois. N'oubliez pas, vous n'êtes peut-être pas Nikos, mais ici, c'est bien vous, nos stars. Allez, rendez-vous au prochain épisode.
Merci Alice.
Bravo.
Merci, je suis en train de me demander ce que Nikos Aliagas n'a pas fait. C'est un peu, comme Rihanna était la Barbade, Nikos était la Grèce.
Il sait tout faire cet homme, il n'est pas assez connu.
Impressionnant.
Exactement. Bon, en tout cas, la femme, elle vient taper du pied sur Cour d'honneur avec son titre mythique « Si un jour », car porter des pantalons, avoir un compte en banque ou fumer une clope, hein, tout simplement, eh bien ça n'a pas toujours été possible pour la gente féminine.
Un jour sur Cour d'honneur du groupe La Femme, qui est, comme son nom l'indique, majoritairement composé d'hommes. Et oui, on s'y perd comme dans les campus de la Sorbonne d'ailleurs, trop varié, trop peuplé, trop répété. On se fignole tout ça avec le chronique pavé.
Shut up.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Boule, parce qu'il y a des tas de journalistes qui veulent venir et qui sont pas venus.
Ah bon, quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas.
Je ne suis sûrement pas la seule à être perplexe devant toutes les universités de Paris. Paris 1, Paris 2, Paris 4, Sorbonne, Assas, Sorbonne, Panthéon. Essayons d'y voir plus clair et c'est Clara qui va nous expliquer les racines de notre passage universitaire actuel.
Eh oui, Paris 1, 2, 3, jusqu'à 13. Et non, je ne vous parle pas des arrondissements qui étaient d'ailleurs 12 en 1795 avant d'être 20. Depuis 1859. Non, ce soir, c'est l'Université de Paris à la page de l'histoire. Ou plutôt des universités, car la voilà qui d'une est devenue 13. Et notre Sorbonne dans tout ça. Alors, comme tu l'as dit, facile de se mêler le pinceau face au grand nombre d'établissements parisiens. Mais pas de panique, je vais vous en faire le portrait. Alors bah, on commence par dessiner le visage, un vieux visage, hein, parce qu'elle n'est pas toute jeune, Madame la Sorbonne. Fondée en 1200, c'est même la troisième plus ancienne université d'Europe, après Bologne et Oxford. Bon, le fond de l'histoire n'est pas très jojo, puisque c'est après que quelques étudiants aient été tués, oui, tués, par des sergents du roi, lors d'une rixe de taverne, que Philippe Auguste juge judicieux de placer l'université sous la justice uniquement ecclésiastique. La charte regroupe alors les écoles en facultés selon leurs spécialités. Théologie, droit, médecine ainsi que art sont les premières enseignées depuis 20 ans par les anciennes communautés des maîtres et écoliers de Paris, déjà dans le quartier composé du mot que je viens de vous dire et de la langue que ces enseignements dispensent, j'ai nommé le quartier latin. Mais c'est que ça en fait du beau monde, 5000 à peu près, selon les plus raisonnables, et cela juste au début. Mais alors, où se loger? Eh oui, déjà, il y avait le problème du logement. Mais alors ça, ça va être réglé par les collèges, fondations dotées de revenus et où les prix de location sont fixés par l'université. Ces hôtels deviennent alors des maisons d'éducation. Ça y est, nous sommes aux racines de la Sorbonne. Des racines qui viennent d'ailleurs du plus profond de la terre, hein, puisque le fondateur de ce qui fut d'abord un collège de théologie était fils de paysan. Oui, oui, Robert, du petit village Sorbon, donc, arrivé fraîchement des Ardennes pour étudier à Paris. À la capitale, il subit la précarité, comme tant d'étudiants les plus modestes. Alors, lui aussi, il était incapable de se payer un logement. Théologien, intellectuel, Robert de Sorbon parvient en 1257 à fonder un collège réservé aux étudiants aux faibles revenus. Cette maison des pauvres, située sur la fameuse montagne Geneviève, devient une université dotée d'annexes lors de la spécialisation des enseignements et la création de laboratoires de recherche à la fin du 19e. Allez hop, on passe à la belle époque. À cette ère-là, Paris, la ville lumière, brille des mutations culturelles, scientifiques et j'en passe de la période. Dans un esprit optimiste et festif, naît la société de masse et donc l'éducation de masse. Une massification de l'enseignement supérieur qui amorce un desserrement de l'offre universitaire. Ainsi, dès les années 1940, par exemple, citons notre chère chimiste Irène Joliot-Curie qui va impulser... pour ne pas dire ordonner, le déménagement des facultés des sciences de Paris dans la vallée de l'Yvette. Et puis alors, vient mai 68, et oui, on l'attendait. Les célèbres révoltes étudiantes ont mené une réforme de l'enseignement supérieur qui aboutit à l'éclatement de l'Université de Paris. Menée par notre cher Edgar Faure, alors ministre de l'Éducation nationale, la loi d'orientation du 12 novembre fait naître une nouvelle espèce. J'ai nommé les établissements publics à caractère scientifique et culturel. De leur côté, les anciennes facultés disparaissent et sont remplacées par des unités d'enseignement et de recherche. Pour plus de détails, direction le site de la République française et son super portail national des archives. Puis, c'est par le décret du 21 mars 1970 que cette fragmentation est actée. L'université Paris-Sorbonne s'inscrit alors aux côtés des 12 autres universités. Cette trajectoire est d'autant plus intéressante qu'elle conditionne des rapprochements difficiles entre les universités parisiennes que le ministère de l'Enseignement supérieur appelle depuis le milieu des années 2000. Alors ce soir, en plus d'une petite découverte étymologique, nous avons vu en quoi l'histoire peut éclairer les enjeux d'actualité. D'ailleurs, dans deux semaines, nous pourrions peut-être nous pencher sur le cas de l'université Paris-Cité, petite création de 2019. Allez, bonne soirée.
Merci beaucoup. Je m'attendais pas à la fin. Vous êtes toujours dans Cours d'honneur sur Radio Campus Paris.
Vous le savez, dans Cours d'honneur, on aime vous balader dans notre quartier, le 5e, sur la rive gauche où on pense.
Plutôt que sur la rive droite où l'on dépense.
Mais aussi vous balader dans notre fac et ses campus.
Et c'est maintenant l'heure de la carte postale.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Fini le service reprographie de Malesherbes, enfin, que l'on remercie pour ses bons et loyaux services, nonobstant. Ce soir, Elias nous emmène dans les coulisses du Fab Lab, le lieu qui booste vos projets en plein cœur du campus de Jussieu. Une visite guidée offerte par Étienne Vicinoni, Fab Manager au sein de l'espace Prototypage.
Bienvenue dans le Fab Lab, ici on est dans la partie biologie et chimie, entre la tour 43 et 44 au deuxième étage. Ici peuvent se tenir des TP, mais aussi des projets personnels étudiants autour de la chimie et la biologie, comme le dit son intitulé. Donc on a des paillasses. Et puis on a tout un tas d'équipements qui sont propres à la biologie moléculaire, à la biologie cellulaire, à la chimie organique, et puis ma foi aussi à l'analyse d'ailleurs. On peut faire des PCR si on a envie. Il y a effectivement plusieurs parties, dont une qui est dédiée à faire justement des essais autour de l'alimentaire. En tout, l'équipe, elle est constituée de 3 personnes. Donc, il y a Gwenaël qui est ici et qui vient d'arriver. Donc, c'est pour ça que j'ai encore un peu de mal à dire son prénom. Steve et Fatima. Ici, on est dans la partie donc plutôt axée analyse. On a aussi la réserve avec tout ce qui est liquide un petit peu dangereux. Puis là, on va arriver dans la partie bio-végétal. On a une petite serre de croissance. Alors, c'est pour l'anecdote, c'est les mêmes qu'on achète pour faire pousser des plantes qu'on n'a pas le droit de faire pousser. C'est plutôt eux qui se sont inspirés des biotechnologies végétales que l'inverse. On a les agitateurs, etc. Et dans cette salle-là, là, c'est quand même assez sympa. On a à la fois partie impression 3D résine et aussi on a un four à friter. Donc, c'est des fours qui permettent, par exemple, de faire des céramiques. Donc, ça monte très, très haut en température. Donc, ça fait partie un petit peu des équipements, on va dire, de pointe pour un Fab Lab. Parce que c'est vrai que pour un Fab Lab, on est quand même extrêmement bien équipé. Merci la France. À la rigueur, on pourrait ressembler à un Fab Lab d'une très grosse entreprise, genre Airbus, quoi. À la rigueur, on pourrait se comparer peut-être à ça. Et là, on serait sûrement en dessous un peu, quoi. Mais voilà. Donc, bah, ici, tu es dans l'espace prototypage, donc ce qu'on appelle usuellement un Fab Lab. Donc, usuellement, normalement, la partie où on est ici, c'est donc un Fab Lab. Et la partie qui s'appelle biologie-chimie, l'espace biologie-chimie, c'est un biolab. Et les Fab Labs, en fait, la création, l'idée, ça vient du MIT, donc Massachusetts Institute of Technology. Donc, ça vient de chez eux et évidemment, les biolabs aussi. Plusieurs associations viennent, dont celle qui fréquente le plus nos lieux, qui s'appelle Top Aero. Là, en ce moment, ils sont sur un concours au moins européen, si ce n'est pas international, de conception de fusées. Qu'est-ce qu'on va trouver dans notre Fab Lab, concrètement? Tout ce qui est électronique, les composants de base, microcontrôleurs, résistance, LED, et évidemment, les cartes de prototypage bien connues du public, Arduino, ce genre de choses, quoi. On a aussi tout ce qui est impression 3D. Donc on est plutôt pas mal fourni. Enfin, pour un Fab Lab, carrément, on est presque proche de la ferme d'impression. Donc on a à peu près, je dirais, ouais, une petite vingtaine de machines. Voilà, là on est dans la salle électronique, donc, où les personnes vont pouvoir tester leur système électronique. Tout le classique de l'électronique se trouve à peu près ici. Et à cette salle-là sont accolées la menuiserie et la salle de pré-production. Donc ici, la salle de pré-production, c'est là où on va pouvoir fabriquer nos circuits imprimés en fait. Et dans la menuiserie, là, on va retrouver un peu tout ce qui est nécessaire pour travailler le bois. Oui, la plupart du temps, ça va être du bois ou du MDF. En gros, c'est un genre de carton très très dur. Ici, ça doit faire 3 ans qu'on a changé de locaux. Donc, on a des locaux qui sont extrêmement grands. Un très très bel espace. Ah, oui. Moi, qui ai travaillé dans d'autres Fab Labs, clairement, on est sur quelque chose d'impressionnant. Quand on arrive à son entretien d'embauche, on se dit « Ah oui, d'accord !» Très content de vous accueillir au Fab Lab. Et donc, si vous avez des idées de génie, des projets personnels ou étudiants ou même de chercheurs, vous êtes les bienvenus pour expérimenter et donner libre cours à vos idées. On vous accueillera.
Merci Elias pour cette magnifique carte postale. C'est bien, tu ramènes un peu de cette fibre scientifique parmi tous ces littéraires. J'ai pas tout compris, mais en tout cas, c'est une vraie caverne d'Alibaba.
On a dit qu'il y avait des cartons très très durs.
Oui, oui, et des serres où ils font d'habitude pousser des choses qu'on ne devrait pas faire pousser.
On se demande.
Écoutez, c'est la fin de Cours d'honneur, épisode 12.
Et oui, déjà, merci de l'avoir suivi. Merci à notre invitée, Laurence Bobis.
Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi.
Merci à toute l'équipe.
Merci à Thomas, derrière les platines.
Et oui, merci à vous. Ravi de vous avoir retrouvé. Ça faisait 3 semaines, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Hein.
C'est vrai.
C'était très long. Merci à toi Elias qu'on vient juste d'écouter.
Eh ben merci à vous, et puis ce fut un plaisir pour moi de vous présenter cette belle carte postale du Fab Lab de la fac où je passe relativement toutes mes journées en ce moment.
Nice.
Merci à Clara pour cette chronique pavée.
Avec plaisir. Moi, je sais pas vous me direz, mais je pense un peu à la campagne maintenant quand je vois la Sorbonne.
Bon, oui, non. C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Petit vent d'air frais.
Merci à Alice aussi pour cette super chronique de Sorbonne en personne.
Mais non, merci à vous les filles. Et puis, je suis très contente si j'ai pu vous faire découvrir à la vie de ce fameux Nikos.
Et voilà. Oui. Tu nous as fait rire aussi.
Mais j'espère bien.
Merci à Lavinia.
Merci à toi. Merci à vous les filles, c'est toujours un plaisir. Et dans 2 semaines.
Oui.
Dans 2 semaines.
Et merci à Ellie aussi pour la carte blanche.
Avec grand plaisir, et merci à vous. Et surtout n'oubliez pas, n'achetez pas de fond de teint trop orange pour vous, sinon c'est catastrophique.
S'il vous plaît. Et merci évidemment à Radio Campus Paris pour le soutien inconditionnel et pour le partenariat.
N'oubliez pas, Cours d'honneur passe en mode bimensuel. Un épisode toutes les 2 semaines.
Merci d'avoir soutenu l'agriculture à nos côtés.
Merci également à nos chroniqueurs et auditeurs de nous avoir rappelé que les dérives populistes et mégalomanes de notre cher Donald Trump.
Mais heureusement qu'il y aura toujours les livres pour nous consoler.
Soyez vous-même.
Soyez fous même.
Restez curieux.
Restez avec nous.
On vous aime.
Bisous, ciao.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter. T'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris. J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.